Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Le président du Sénat tchèque a confirmé la tenue d'un prochain voyage à Taïwan. Andrei Babiš s'est entretenu avec son homologue israélien Benjamin Netanyahou. Et puis enfin, une nouvelle carte interactive a été mise en ligne par le ministère des Affaires étrangères tchèque sur les conditions de voyage en Europe. Le président du Sénat tchèque se rendra finalement bien à Taïwan et ce malgré la mise en garde de la Chine. Ce mardi, Miloš Vystrčil a confirmé que sa visite devrait se tenir du 30 août au 5 septembre prochain. Il sera accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise et ce dans le but de renforcer l'action de la Chambre de commerce tchéco-taïwanaise. Bien que vu d'un mauvais œil par le président de la République, Miloš Zeman, une visite du chef de la Chambre haute du Parlement tchèque à Taïwan est envisagée depuis plusieurs mois déjà. Devant la presse, ce mardi, Miloš Vystrčil, membre du parti conservateur d'opposition ODS, a indiqué que les pressions exercées par la Chine pour empêcher ce voyage constituaient précisément une des raisons de son organisation. Selon lui, la République tchèque n'a pas, je cite, à compter les sous, mais à veiller au respect de certaines valeurs. Fin de citation. Ce voyage devrait s'effectuer à bord de l'avion du gouvernement. Diplomatie toujours, le Premier ministre tchèque s'est entretenu par téléphone avec son homologue israélien Benjamin Netanyahou. Sur son compte Twitter, ce mardi, Andrei Babiš a indiqué qu'ils avaient discuté essentiellement du coronavirus, des conséquences économiques, de la pandémie, d'une éventuelle deuxième vague de la maladie, mais aussi des relations traditionnellement bonnes entre les deux pays et de leur coopération dans de nombreux domaines. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la récente publication dans un quotidien tchèque d'une déclaration signée par le chef de la diplomatie Tomáš Petříček et de deux de ses prédécesseurs dans laquelle il critiquait le plan israélo-américain visant à l'annexion de la vallée du Jourdain et des colonies juives situées en Cisjordanie. Cette déclaration avait été critiquée tant par le président de la République que par le chef du gouvernement. Elle sera prochainement débattue également à la Chambre des députés. Toutefois, en fin de semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères israélien a accepté une invitation de son homologue tchèque, et ce, après que les deux hommes ont discuté d'une réunion commune des gouvernements des deux pays. Le mouvement civique 1 million de moments pour la démocratie organise ce mardi des marches de protestation à Prague ainsi que dans 145 villes et communes du pays. Les manifestants veulent ainsi critiquer la réponse du gouvernement tchèque à la pandémie de coronavirus. Le collectif qui organise les protestations affirme que le gouvernement a semé le chaos pendant l'état d'urgence, qu'il n'apporte pas une aide suffisante aux entreprises et que les commandes publiques pour l'achat du matériel sanitaire ont été peu transparentes. Le mouvement civique 1 million de moments pour la démocratie mène depuis 2018 une campagne pour pousser vers la sortie le Premier ministre Andrei Babiš, l'accusant de ne pas avoir mis fin à son conflit d'intérêts. Le ministère des Affaires étrangères tchèque a mis en ligne sur la page d'accueil de son site une carte interactive appelée la carte du voyageur Covid-19, une carte qui informe des conditions actuelles pour se rendre dans les différents pays européens ainsi que des conditions de retour en République tchèque. Cette carte sera régulièrement actualisée au fil de l'évolution de la situation sanitaire et des différentes mesures adoptées par les gouvernements des pays. Dès à présent, figurent les informations relatives à ce qui changera à compter du 15 juin, la date prévue en République tchèque pour l'autorisation d'entrée sans restriction de plus de 20 États européens. Les visiteurs en provenance de pays où l'épidémie est encore répandue, parmi lesquels notamment la France et la Belgique, devront quant à eux fournir un test négatif au Covid-19 ou accepter d'être mis en quarantaine à leur arrivée.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Tout de suite, les sujets du jour. À Prague aussi, les gens se sont mobilisés contre les violences policières et la discrimination raciale. Un rassemblement a eu lieu le week-end écoulé. S'il n'a pas rassemblé autant de personnes que dans d'autres villes du monde, il a quand même permis à plusieurs centaines de personnes de montrer leur solidarité avec les manifestations pacifiques aux États-Unis. En seconde partie d'émission, nous évoquerons le destin de la mère de l'écrivaine américaine Hélène Epstein, née en Tchécoslovaquie et déportée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bonne écoute de ce programme. Après la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, c'est au tour de la République tchèque de se mobiliser pour protester contre les violences policières. Après la mort de George Floyd, ce citoyen afro-américain de 46 ans tué par un policier à Minneapolis le 25 mai dernier. À Prague, des centaines de manifestants se sont réunis sur la place de la Vieille Ville et ont marché ensemble jusqu'à l'ambassade des États-Unis pour exprimer leur solidarité et lutter contre le racisme. Jordan Joseph était sur place.
Tôt, samedi dernier, devant l'ambassade des États-Unis, l'heure était au recueillement. On est venu seul, en famille ou entre amis, témoigner son soutien en déposant des fleurs, des bougies et des messages sur le mémorial consacré à George Floyd, ainsi qu'à l'ensemble des victimes de violences policières. Comme pour souligner le sentiment d'exaspération suscité par cette nouvelle affaire, ont été inscrits sur des pancartes les noms des hommes et des femmes, pour la plupart afro-américains, tués ces dernières années par la police. Sur les banderoles, des messages de solidarité, en anglais mais aussi en tchèque, tels que « Vidíme vás »,« Slyšíme vás », « On vous voit, on vous entend ». Si ce mémorial a vu le jour, c'est que plus tôt dans la semaine, un événement sur Facebook appelant à une marche solidaire à Prague s'était vu annuler en raison du trop grand nombre d'adhérents par rapport aux restrictions gouvernementales liées au coronavirus. Malgré cela, la marche a tout de même eu lieu plus tard dans l'après-midi. Ayant appris l'existence de ce mémorial sur le réseau social, la famille Dourda, tchèque et américaine, s'est rendue sur place. C'est aussi le cas de Jennifer, une expatriée d'origine française et britannique, qui a tenu à ce que figure sur le mémorial le nom d'un Français, Adama Traoré, tué dans le Val-d'Oise en 2016. Sur place également, Shaina et Alena, deux expatriés, nous expliquent les raisons de leur venue à l'ambassade.
Out of solidarity, we decided to come when we saw the Facebook event.
Nous sommes venus par solidarité après avoir vu l'événement sur Facebook qui proposait de manifester pacifiquement. Je suis caribéenne, je suis métisse et mon ami est également métisse, originaire des États-Unis. Nous avons le sentiment que ces personnes sont nos frères et sœurs et ils souffrent depuis trop longtemps. Ça nous touche à chaque fois qu'une chose comme celle-ci se produit, et moi particulièrement quand ça arrive aux États-Unis. C'est absurde que ce soit encore un problème et que personne ne fasse rien pour y remédier. Certaines personnes ne comprennent toujours pas et décident d'ignorer. Ils sont encore endoctrinés par le passé colonial et ne comprennent pas que cela nous divise et affecte tout le monde.
It matters to us all because this is going to ruin, it's going to tear apart the world. Yeah, it does affect everyone.
Ce sentiment de saturation et la nécessité d'une prise de conscience est également partagé par Seymour.
Je suis un être humain de 44 ans. Je suis né au Royaume-Uni de descendants jamaïcains. Je suis venu ici parce que j'ai moi-même été confronté aux épreuves que traversent les Noirs dans le monde depuis des siècles et dans mon cas depuis des décennies. C'est fantastique de voir qu'enfin nos frères et sœurs blancs reconnaissent que les choses doivent changer. Je voulais voir comment les habitants de Prague allaient partager leur soutien. C'est un problème qui n'a que trop duré. Ce matin encore, j'écoutais justement une superbe interview de James Baldwin qui date des années 1960. Elle est toujours d'actualité, 60 ans après. C'est un problème qui n'a que trop duré.
Interrogé sur les changements que l'affaire George Floyd pourrait engendrer, Seymour reste mitigé. Il nous explique pourquoi.
Le temps nous le dira. Je suis sceptique, mais nous verrons. C'est une étape positive qui va dans la bonne direction. Je ne suis pas d'accord avec la violence qui éclate aux États-Unis et aussi avec la façon dont cette affaire est commercialisée par les grandes entreprises. C'est une atmosphère très étrange. Il pourrait y avoir du changement, Mais il faut dire que ce problème du racisme est étroitement lié au capitalisme. Lorsque l'on voit que le système exploite les ressources venues d'Afrique ainsi que la main-d'œuvre asiatique pour soutenir ce capitalisme, peut-être que l'assassinat de mon frère George, tué devant les caméras, ne pourra pas tout changer, mais nous sommes certainement sur la bonne voie.
That kind of shift, but maybe we can make, you know, steps in the right direction.
Black Lives Matter! Black Lives Matter!
Plus tard, en début d'après-midi, munis de leurs masques, des centaines de manifestants se sont réunis sur la place de la vieille ville. Mégaphone en main, les organisateurs de la manifestation ont rappelé que les Tchèques ont un rôle à jouer dans ce mouvement de lutte contre le racisme et contre les autres formes de discrimination. Arborant des pancartes telles que « Justice for Floyd » ou « No Justice, No Peace », les manifestants ont scandé les slogans « Black Lives Matter » ou « Say His Name ». Ils ont également chanté en chœur un extrait de la chanson de Michael Jackson « They Don't Care About Us » écrite en 1995 et devenue un hymne contre l'oppression systémique dont sont victimes les Noirs et les minorités aux États-Unis. En guise de symbole, les manifestants se sont également allongés sur la place pendant 9 minutes, le temps durant lequel le genou du policier Derek Chauvin est resté sur le cou de George Floyd jusqu'à l'étouffer. Parmi les manifestants, on comptait beaucoup de jeunes. Parmi eux, Emilio, un jeune homme caribéen qui étudie les beaux-arts à Prague.
Police brutality is a real issue and I think the one thing...
Les violences policières sont un vrai problème. J'ai entendu beaucoup de contre-arguments de conservateurs qui disent qu'il ne s'agit pas là d'un problème lié à l'appartenance ethnique, que le racisme n'est pas systémique. Ils avançaient l'argument de l'importance de la violence des Noirs entre eux, en disant que ces derniers se plaignent et que c'est à eux de résoudre ce problème culturel. Je ne dirais pas que tout le système est raciste, mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui bénéficient davantage dès leur naissance. Si tu grandis dans un ghetto, tu n'auras pas les mêmes opportunités que les autres. La question est de savoir pourquoi il y a plus de crimes dans ces endroits, parce qu'historiquement, ces personnes ont été parquées dans ces zones et ont été exclues. Le système les a maintenues dans ces zones.
Nadji, un Français de 25 ans qui vit à Prague depuis 5 ans, a également répondu présent à l'appel.
Pour moi, c'était très important d'être là aujourd'hui parce que je trouve que le racisme, c'est quelque chose qui est de plus en plus banalisé. Et surtout, je trouve que c'est beaucoup plus différent à Prague où la majorité des gens sont blancs et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont noirs, mixtes. Et malgré qu'il y ait une grosse communauté asiatique, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de racisme par rapport à ça. Et pour moi, c'était important de venir aujourd'hui pour honorer George Floyd et toutes les autres personnes qui ont été victimes de racisme, et ainsi que pour nous de nous montrer, d'avoir un peu d'être visible en fait pour les gens tchèques et pour toutes les gens des diverses communautés de se réunir ensemble aujourd'hui.
Le cortège s'est ensuite dirigé pacifiquement vers l'ambassade des États-Unis pour rendre un dernier hommage aux victimes. Devant le bâtiment, la foule a partagé un moment de communion grâce notamment à l'un des manifestants, Jean-Thierry d'Almeida, qui a porté la voix pendant une quinzaine de minutes. Il a scandé un chant très populaire dans les équipes de la NFL, la Ligue de football américain aux États-Unis. Au micro de RPI, ce jeune professeur de danse de 26 ans qui a grandi à Prague explique ce qui l'a poussé à s'exprimer.
I was born in Slovakia, but all my life I live here in Prague.
Je suis né en Slovaquie, mais j'ai toujours vécu à Prague. Mon père est du Bénin, en Afrique. Je fais partie d'un groupe où l'on fait des performances pour les enfants d'école primaire dans le but de lutter contre le harcèlement scolaire et promouvoir l'amour et l'amitié. Je suis venu manifester mon soutien aux familles des victimes. Nous nous sommes mis à chanter et quelqu'un m'a mis un mégaphone entre les mains. Je ne me suis pas posé de questions, je l'ai fait. J'ai exprimé ce que je ressentais à ce moment-là. Ma voix est suffisamment forte pour le faire.
I just felt that my voice is like loud enough.
Frances Waugh en anglais, Francina Válka en tchèque, le récit autobiographique de Franci Epstein commence par une carte et les quatre étapes de son périple concentrationnaire, Térésine, Auschwitz-Birkenau, Neuengamme et Bergen-Belsen. Née à Prague en 1920, Františka Rabinková a été déportée avec ses parents et son premier mari en 1942. Seule survivante, elle a attendu 30 ans avant de mettre sur papier ce qu'elle a vécu pendant la guerre et écrit ce livre aux États-Unis où elle avait émigré en 1949 avec son second mari, Kurt Epstein, et sa fille Hélène, alors âgée d'un an. C'est Hélène Epstein qui a contribué à ce que le récit de sa mère soit publié aujourd'hui dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Tchéquie et bientôt en France par les éditions Flammarion. Hélène Epstein a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Panorama.
Panorama.
Bonjour Hélène Epstein.
Bonjour de Massachusetts.
Merci de répondre à nos questions depuis la banlieue de Boston à l'occasion de la sortie dans plusieurs pays du livre de votre mère, Franci Rabinek-Epstein, un livre publié aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi très bientôt en France, ici en Tchéquie et également en Slovaquie. Ce livre, c'est le récit de son calvaire concentrationnaire, sa terrible expérience des camps de Térésine jusqu'à son retour à Prague. Est-ce que c'est pour vous d'abord le récit d'une jeune Pragoise insouciante, jetée comme ça dans l'enfer de l'histoire et qui en fait a pris conscience de sa judéité seulement avec l'arrivée des nazis en Tchécoslovaquie?
Exact. Ma mère est née à Prague en 1920, c'est-à-dire deux années après l'établissement de la République tchèque,
Tchécoslovaquie.
Et son père, Émile Rabinek, était un ingénieur de formation qui était, il disait, refusé par une université allemande parce qu'il était juif, parce qu'il y avait un numerus clausus. Alors, il a décidé, quand ma mère est née, de la faire baptiser. Alors, elle était en papier catholique, même qu'elle avait quatre grands-parents juifs et des parents juifs. Mais elle est allée à l'église comme un enfant. Elle est allée au lycée français, où elle a non seulement parlé français, mais aussi était dans un milieu assez catholique. Et à l'âge de 13 ans, elle a décidé qu'elle ne croit pas en Dieu et elle a décidé qu'elle va se faire officiellement sans religion. Alors, elle était sans religion, mais elle n'a pas vraiment eu une identité juive.
D'ailleurs, est-ce que son nom officiel sur ses papiers d'identité était toujours Františka?
Si, oui, pardon. Mais quand elle est venue aux États-Unis, elle s'appelait toujours Franci. Je ne comprends pas exactement pourquoi, mais c'était comme ça.
La première fois que vous avez lu ce récit, votre mère était encore en vie?
Oui, j'ai lu le récit quand elle l'a écrit, c'était en 74 ou 75, pour la première fois. J'étais, je crois, étudiante à l'école de journalisme à Columbia, à New York. Et mon prof là-bas a commencé une des premières librairies de testimonies de Shoah.
De témoignages.
Oui, de témoignage de Shoah à New York. Et il m'a demandé si je pouvais faire un entretien avec mes parents. Alors, j'ai fait des entretiens avec les deux. Et peut-être, c'était en janvier 1974, très tôt. Et peut-être, c'était ça qui a donné à ma mère l'idée de d'écrire sa mémoire. Je ne sais pas. Je sais que j'ai fait un très, très mauvais entretien. J'étais étudiante et c'était un des premiers entretiens que je faisais. Et peut-être elle était frustrée par le fait que je l'ai interrompue tout le temps. Alors, elle a décidé de faire ça. On n'a jamais, jamais trouvé, ni moi, ni mes deux frères, on n'a jamais vu ma mère en train d'écrire sa mémoire. Elle n'a pas parlé de ça et on n'a jamais trouvé des vrais manuscrits. On a seulement ces 150 pages tapées à la machine et avec très peu de corrections, en fait. Et elle m'a donné ça. Elle a eu une cliente. Elle était couturière, ma mère. Et elle avait une cliente qui était aussi agent littéraire. Alors, elle a donné ce manuscrit à cet agent. Elle l'a envoyé partout et tout le monde l'a rejeté. Alors, elle m'a donné ce manuscrit. Elle a dit, ah, tu vas écrire des livres, tu vas écrire des articles, tu peux employer ce que j'ai fait. Et c'était la fin pour le moment.
Comment est-ce que vous expliquez qu'il a été rejeté, ce manuscrit, à l'époque?
Je pense qu'il y avait plusieurs... Je ne sais pas vraiment, parce qu'on ne sait jamais. Parce que même aujourd'hui, moi, j'ai eu des manuscrits rejetés par des douzaines de maisons de publication. Mais je crois qu'il y avait plusieurs raisons. Une raison, c'était, comme on a discuté, elle n'était pas un vrai juif dans les yeux américains juifs. Et en Amérique, la plupart des juifs sont de l'Europe de l'Est et ils sont religieux. Ils sont venus aux États-Unis au commencement du XXe siècle. Ma mère n'était pas du tout comme ça. Ma mère n'était ni religieuse, ni parlante yiddish, ni polonaise, ni traditionnelle. Son idée de Pessah était de mettre une nappe et des bougies et peut-être avoir un Haggadah qui était distribué par une compagnie de bonbons qui s'appelait Barton's. Et c'était tout. Et elle ne faisait pas le Shabbat. Elle ne savait pas vraiment. Elle ne connaissait pas les traditions juives. Alors ça, c'était une raison. Deuxième raison, elle était une femme. Et comme je viens de dire, elle n'était pas une femme Eshet Chayil. Elle était une femme très, très moderne, contemporaine, une femme qui était habituée à ménager son business. Elle était directrice de son propre salon à Prague, à Narodny et Spalena. Et en Amérique aussi, mon père était en chômage pendant 10 ans. Et c'était elle qui nourrissait la famille, qui faisait l'argent, tout ça. Alors, elle était tout à fait pas le modèle d'une femme juive en Amérique dans les années 60, disons.
Il n'y a aussi aucun tabou dans son récit.
Non, j'allais dire, elle était aussi extrêmement franche, surtout, mais particulièrement sur les relations entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, les relations sexuelles, les relations homosexuelles, hétérosexuelles, toutes sortes de sexuelles. Et elle, j'avais l'impression, presque toute mon enfance, qu'elle n'était pas du tout, on dit en anglais, she didn't hold anything back. Elle n'a rien laissé pas dit, on peut dire en français. Et je pense que ça a été tout à fait contre le modèle américain de femme dans ces années. Vous vous rappelez, c'était les années que, comment elle s'appelle, Sartre et
Simone de Beauvoir.
C'était vraiment très, très, très tôt dans le commencement de féminisme, de deuxième vague de féminisme. Et ma mère était tout à fait hors de normal. Et je pense que la chose qui était le plus choquante dans son récit, c'est qu'elle a décrit les épisodes des femmes juives prisonnières qui ont, pour protéger leur mère, ont eu des relations sexuelles avec les gens dans les camps, les gardes, et s'ils étaient des capos non-nazis ou s'ils étaient des vrais nazis, des SS. Et ça, c'était vraiment très choquant. C'est choquant maintenant pour plusieurs gens, mais c'était vraiment choquant alors.
Dans le récit de votre mère, on a l'impression qu'elle est restée plutôt indulgente avec ses compatriotes tchécoslovaques, tchèques oui. de l'époque, oui. Même avec les gardes du camp de Térézine, le premier camp qu'elle a ouais. dû traverser dans son périple. Elle semble ne pas en vouloir à ses compatriotes. C'est le sentiment que vous avez eu?
Oui, j'ai eu ça. Et en fait, en Amérique, c'est aussi très choquant. Parce qu'en Amérique, presque tous les survivants ou les déportés juifs polonais ou juifs hongrois ou juifs grecs ou n'importe qui étaient déportés, même les juifs français, en volent beaucoup les autres citoyens de leur pays. Mais ma mère a toujours gardé un souvenir presque sentimental des Tchèques. Et je pense que ça a plusieurs raisons. Je pense qu'elle était un enfant de la Première République. Elle était aussi mariée à un homme qui était dans l'armée tchécoslovaque deux fois, c'est-à-dire son premier mari et son deuxième mari, les deux étaient dans l'armée tchécoslovaque. Et leur société était très, très tchécoslovaque, très mixte. Ils ne vivaient pas dans une société juive, ils vivaient dans une société tchèque. L'autre chose, c'est que comme directrice d'un salon, elle employait les couturières tchèques, et aussi ses clientes étaient tchèques. Et elle était tout à fait intégrée dans la société tchèque. Aussi, dans les camps, il y avait beaucoup de gens comme elle, beaucoup de femmes comme elle, qui étaient juives très, très séculaires. Elle décrit une femme qui logeait au-dessus d'elle, qui était un convert catholique, qui disait sa rosarie, on dit?
Oui, son chapelet.
Son chapelet tous les soirs.
Et d'ailleurs, elle décrit une scène assez exceptionnel, qu'on ne connaît que très peu, c'est une messe de Noël à
Térézine. Oui. Alors, c'est tout à fait une anomalie.
C'est une anomalie.
Dans le contexte américain juif, c'est tout à fait inattendu, une chose pareille. Et l'autre chose, et même si quand elle est revenue à Prague, Elle a passé des expériences assez tristes et décevantes avec quelques amis. Elle a aussi passé des expériences extraordinaires avec des amis. Il y avait un homme qui était un policier à Térézine, un Tchèque, qui a proposé le mariage à ma mère après la guerre. Alors ça c'est très rare à part de la Tchécoslovaquie ou à part la Tchéquie.
Et retrouver la seconde partie de cet entretien avec l'écrivaine américaine Hélène Epstein très bientôt sur Radio Prague International, évidemment. Cette émission s'achève. Je vous rappelle également qu'actuellement, Radio Prague International vous propose une série consacrée aux grandes femmes, aux femmes illustres de l'histoire tchèque. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire, le destin hein, de Zdenka Braunerová, une peintre tchèque qui a beaucoup contribué au rayonnement des relations franco-tchèques au cours de la première moitié du XXe siècle. Découvrez son médaillon, son portrait sur notre site internet, évidemment, mais également sur les réseaux sociaux. Je vous invite évidemment à consulter notre compte Twitter, actualisé tout au long de la journée, même tard dans la nuit parfois, et notre page Facebook. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.